France Culture.
Bonjour le Book Club et bonjour Manuela Dreger ou Antoine Volodine. Merci pour cette lecture que j'ai abordée à l'aveugle, aimant me laisser porter justement par ma peur et ma curiosité entremêlées dans ce monde justement où le temps s'est arrêté entre réel et cauchemar. Et j'ai aimé me laisser mener par ces enfants perdus dont je me sentais un peu proche, moi aussi.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il faut tuer quelqu'un ou quelque chose pour que le jour se lève. Aujourd'hui, dans votre book club, le sacrifice est d'autant plus mystérieux qu'on ne sait pas s'il doit avoir lieu dans le réel ou dans les songes. Mais entre nous, le réel est une affaire bien étrange, au cœur du dernier livre de Manuela Dreger. Des êtres forcés, semblait-il, à une enfance éternelle, évoluent en une géographie du néant, blocs et autres frontières en alourdissent l'ambiance post-apocalyptique. Leur survie est un autre mystère, on les suit dans leur quête. Arrêt sur enfance, c'est le titre de ce nouveau livre. Le porte-parole de Manuela Dreger, Antoine Volodine, est notre invité pour en parler. Vers 15h50, on retrouve Fanny Taillandier pour ses lectures d'actu. Aujourd'hui, racisme anti-blanc et polar à l'envers. Quelques débats d'actualité lui font sortir un roman de Chester Rhimes. Et en fin d'émission, on cherche avec vous de la musique dans les livres et on en trouve pour le grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure. J'ai pas beaucoup de voix, ça va aller. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Antoine Volodine.
Bonjour.
Manuela Dreger ne s'exprime pas dans les médias, vous êtes donc son émissaire, son porte-parole. Bienvenue dans le Book Club de France Culture. Son livre s'appelle « Arrêt sur enfance » et il a paru aux éditions de l'Olivier. Ici, tout commence toujours par un portrait de nos invités. Donc c'est d'abord votre portrait qu'on va faire en tant que lecteur, si vous voulez bien, Antoine Volodine. Et ensuite, dans un second temps, nous parlerons du texte Manuela Dreger. On va l'entendre, il est beaucoup question de ces espèces d'enfants éternels, en tout cas des êtres qui sont comme arrêtés à un certain âge, mais des êtres pour qui l'âge n'est plus vraiment important. Est-ce que vous vous souvenez, dans votre parcours de lecture, avoir rencontré de forts personnages d'enfants, des personnages qui vous auraient marqué ?
On parle très souvent de renvoi à la littérature et moi j'aime beaucoup renvoyer au cinéma et j'aimerais donc voir des enfants perdus, des enfants qui correspondent un peu au monde post-exotique dans un film qui s'appelle Bouge pas, mort et ressuscite où deux enfants pré-adolescent affronte dans le Grand Est soviétique la noirceur d'un paysage minier avec des trains, des montagnes noires la nuit presque permanente. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué. Mais ce n'est pas dans mon enfance, c'est beaucoup plus récent, c'est il y a un quart de siècle.
Bouge pas, mort, ressuscite, c'est ça le titre
Bouge
du film.
Bouge pas, meurt et ressuscite.
Bouge pas, meurt et ressuscite. Le cinéma occupe la même place que les livres dans votre vie, Antoine Volodine, en termes de rapport à l'art.
Oui, absolument. Dans la première partie de ma vie, c'était dans les années 50 et 60, le cinéma était beaucoup moins accessible, l'écran existait beaucoup moins, donc c'est le livre qui m'a éduqué, qui m'a permis de connaître le monde, de rêver le monde et de rêver d'autres mondes, ça c'est certain. Mais très rapidement, le cinéma s'est imposé comme une seconde source culturelle extrêmement importante. L'image, tout autant que l'aventure, bien sûr, et l'anecdote, mais c'est quelque chose qui m'a conduit à adopter certaines techniques dans mon écriture. Qui sont plus proches de celles du cinéma que de celles de la littérature parce que mes références au moment où j'écris sont beaucoup plus cinématographiques que littéraires.
Y compris dans votre langue, vous diriez que la manière même dont vous écrivez Alors du coup, je sais plus trop à qui, mais en tout cas, vos textes à vous, Antoine Volodine, sont pétris de techniques cinématographiques.
Non, pas forcément. La langue m'a été transmise par la littérature, c'est évident, et par. Je n'ai jamais cherché, et certainement pas dans ce livre, à faire de la belle page, de la belle langue académique, même si, bien sûr, je respecte parfaitement la, et j'aime énormément la langue française, mais en lui ôtant toute référence culturelle trop évidente de filiation avec la littérature française particulièrement.
Vous parlez d'une forme d'apprentissage du monde et de la vie, voire d'un outil de connaissance qu'aurait été la littérature dans les premières années de votre vie. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir compris singulièrement des choses en lisant certains textes? Est-ce que c'est aussi clair que ça?
Non, ça n'est pas aussi clair que ça. Bien sûr, il y a l'expérience personnelle qui se superpose à l'expérience de lecture.
Et est-ce que vous diriez que la lecture a augmenté? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est augmenté dans votre expérience de vie, des choses que vous lisiez?
Oui, bien sûr. J'ai énormément lu pendant pendant toute ma jeunesse, avant d'entamer des études universitaires, et ensuite j'ai lu encore énormément, et il est vrai que dans ce qu'on pourrait appeler mes années 20, j'ai vraiment
vos années 20, c'est votre vingtaine?
Pardon,
votre vingtaine à vous?
Oui. Ma vingtaine. J'ai lu énormément de livres liés à l'imaginaire, quelle que soit leur étiquette, y compris de la science-fiction, de la très bonne science-fiction, ça existe, et ça m'a certainement ouvert les yeux, l'esprit vers ça m'a permis de partir ailleurs que sur Terre, et bien sûr partir ailleurs que dans la société plus morne dans laquelle je me débattais.
Est-ce que vous avez des noms en tête, de vous parler de très bons textes de science-fiction qui auraient été importants pour vous?
Frank Herbert, Asimov, Van Vogt, comme classique, grand classique, mais des dizaines d'autres également. Je n'ai pas préparé de liste, et j'ai heureusement une très mauvaise mémoire, ce qui me permet de confondre. Et ça, c'est un des aspects intéressants de la lecture ou du lecteur. De confondre l'expérience lue avec l'expérience vécue.
Et vous aimez ça?
J'adore. Oui.
Vous aimez ne plus être certain de savoir, Antoine Volodine, si vous avez vécu quelque chose ou si vous l'avez lu, et inversement?
Oui, si je l'ai lu, si je l'ai vécu, si je l'ai rêvé.
Si vous l'avez écrit.
Si je l'ai écrit, exactement. C'est un mélange qui est à l'arrière de mon comportement du quotidien, et qui enrichit, je pense, ce quotidien, et qui permet aussi d'être à l'aise tranquillement dans l'écriture, pour ne pas avoir trop de barrières culturelles et de barrières logique même.
Donc ça veut dire qu'il y a une forme de continuum de l'existence, et que ce continuum-là, il est comme un grand fleuve, nourri de la lecture, de l'écriture, du rêve, de la nuit, du jour, et que tout ça, c'est pas quelque chose qui subirait des frontières, quoi.
Oui, je suis pas tellement favorable à l'idée de frontières, donc pendant toute ma vie, je les ai franchies.
D'ailleurs, vous êtes là, Antoine Volodine, pour parler d'un texte de Manuel Adreger, pour dire
Exactement.
Les choses très... pour dire les choses sans théâtralité, on peut dire que ce serait... Est-ce qu'on pourrait dire que ce serait un de vos... je sais pas comment dire ça, un de vos cordes d'écriture?
Oui, si vous voulez, c'est un hétéronyme, c'est une voix. C'est une voix dans cette vaste construction que j'ai appelée le post-exotisme, hein, cette vaste construction romanesque en 49 titres qui voit ici, avec Arrêt sur enfance de Manuela Dreger, son 48e titre, donc on est proche de la fin. Et surtout, c'est une construction dans laquelle interviennent, depuis maintenant une vingtaine d'années, des voix hétéronymiques, des voix très différentes de celles de Volodine, justement. Et là, on est, et on va parler aujourd'hui, d'une voix qui est une voix féminine, qui ne peut pas être confondue avec celle de Volodine, Bassmann ou Kronauer.
Quand vous dites que depuis une vingtaine d'années, ce sont des voix, donc une forme de multiplicité de chemins d'écriture qui se sont présentés à vous, Antoine Volodine, est-ce que vous vous souvenez comment? Est-ce que c'est qu'il y a une forme de décision qui a été prise par l'auteur que vous êtes?
Oui, je me suis trompé en fait en disant, en datant, de, en parlant de d'une vingtaine d'années, parce que dès le début, à l'intérieur des livres qui étaient signés Volodine pour commencer cette construction, intervenaient de nombreuses voix, de nombreuses signatures d'auteurs responsables de livres à l'intérieur des livres. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, même un quart de siècle, 25 ans, 26 ans, ces voix ont pu commencer à être autonomes au niveau éditorial, c'est-à-dire que Elie Kronauer, Manuela Dreger ont commencé à être publiés de manière tout à fait indépendante chez des chez un éditeur qui était l'École des Loisirs, qui convenait à cette première apparition, parce qu'elle était discrète et elle me permettait de construire cet édifice post-exotique. Et ensuite, plus tard, à la rentrée 2010, sont apparues vraiment toutes les voies du post-exotisme en même temps. Et à la rentrée 2010, il y a eu trois livres qui ont coexisté dans la rentrée d'automne 2010, qui étaient un de Bassmann, un de Luz Bassmann, un de Antoine Volodine et un de Manuela Dreger. Et à partir de ce moment-là, disons que l'éclatement des voix du post-exotisme, leur affirmation dans le monde éditorial était concrétisée vraiment.
Et qu'est-ce que ça changeait, Antoine Volodine, cette étape-là? C'est-à-dire pas seulement d'avoir des signatures à l'intérieur d'un texte et des voix qui surgissent à l'intérieur d'un texte, mais presque des corps, puisque les livres, c'est matériel. Est-ce qu'il y avait quelque chose de libérateur pour votre écriture, par exemple?
C'était surtout que ça permettait de poursuivre, d'intensifier ce qui était un vaste projet de performance littéraire consistant à justement donner corps à tout un groupe d'écrivains imaginaires, mais concrétisés par le fait qu'ils étaient publiés chez des éditeurs différents. Donc ça changeait beaucoup, ça permettait de parler du post-exotisme sans toujours parler de Volodine, par exemple. On pouvait, comme certains chercheurs le font ou l'ont fait, consacrer leur travail à Luz Bassmann ou à Manuela Dreger. Et ça, c'est richissime, c'est extrêmement satisfaisant pour moi, évidemment, parce que c'était la preuve que la route tracée, eh bien, je la parcourais comme il fallait et que nous la parcourions. Il y a eu un moment où il a été possible que dans les interviews, publiquement, je dise « nous » sans que ce soit un « nous » de majesté, voilà, que ce soit un « nous » qui soit bien le fait qu'un porte-parole s'exprimait au nom des autres.
Mmh. C'était aussi une reconnaissance puissante de la pluralité. Ça dit quand même, je trouve, la puissance, Antoine Volodine, d'un nom écrit sur la couverture d'un livre. C'est-à-dire qu'un nom d'auteur ou d'autrice écrit sur la couverture d'un livre fait exister quelque chose.
Oui, c'est certain. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que se produise ce miracle de la publication d'auteurs post-exotiques publiés chacun chez son éditeur, chez son éditeur avec ses critiques, ses fervents admirateurs, etc. Distinguer ces voix était quelque chose de très très important au fil des années. Donner naissance à une communauté d'écrivains. D'abord, c'est une performance, c'est ce que j'ai déjà dit. Et puis, c'est une source de contentement.
On va parler de ce livre de Manuela Dreger, Antoine Volodine, avec vous, juste après cette chanson du groupe Suicide, sortie en 1979. Ici, elle est reprise par le duo Zombie Zombie, véritable incantation à brûler les rêves, car les rêves gardent vivants.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On a un sacré problème dans le Book Club cet après-midi. Le jour ne se lève pas. Le narrateur du livre de Manuela Dreger est navré de devoir nous le répéter encore une fois, mais l'aube ne se lève pas et la nuit est péniblement brûlante. Dans son dernier roman, des enfants sont comme arrêtés dans l'enfance, stoppés, forcés, perdus, à un âge qui n'a plus vraiment d'importance. Un monde inquiétant abrite leur déambulation, un au-delà du monde jamais avant décrit. Ils savent devoir perpétrer un crime pour que revienne l'astre solaire, mais celle qui commet habituellement ce crime ne peut plus le faire. Brouillard mental et silence à dissiper. C'est du fascinant dernier roman de Manuela Dreger que nous parlons cet après-midi. Nous le faisons avec vous, Antoine Volodine, qui est son porte-parole, son émissaire ici pour le Book Club de France Culture. On va entendre dans un instant un extrait de votre livre, mais tout à l'heure vous avez parlé du surgissement des voix, de la pluralité des voix, de cette performance de faire exister plusieurs auteurs et plusieurs autrices. Et c'est ainsi que commence le livre de Manuela Dreger, avec une voix justement. Est-ce que c'est comme ça que les livres débutent? Est-ce que c'est en présentant une forme de voix intérieure?
Voix intérieure, voix extérieure. J'ai parlé tout à l'heure de cinéma, de film. Je pense qu'un film peut commencer souvent sur du noir avec une voix extérieure qui rend le mystère immédiatement présent et ouvre sur du noir et sur des images à venir, oui.
Donc ce serait un peu ça, le début de Arrêt sur enfance,
Dans Arrêt sur enfance,
écran noir, une voix, et voix extérieure.
Écran noir, voix extérieure, oui. Et jusqu'à la fin, écran noir, voix extérieure aussi. Alors, voix extérieure ou voix intérieure, ça c'est évidemment à définir par le lecteur ou la lectrice, bien sûr.
Il y a quelque chose dans ce texte-là où, en effet, le réel tremble, mais aussi l'appartenance à l'existence diurne ou à l'existence nocturne. Est-ce qu'on rêve? Est-ce qu'on vit? Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Antoine Volodine, une forme de continuum de l'expérience où tout ça peut être mêlé. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut, par exemple, lire ce roman?
Il n'y a pas d'existence diurne. Elle est évoquée comme une possibilité qui n'est plus, qui est impossible d'atteindre. C'est d'un bout à l'autre des pages de ce livre.
C'est la nuit.
On se déplace dans la nuit, dans les rêves, et l'aube ne vient pas, vous l'avez dit dès le début. Et effectivement, les voix différentes se superposent, les rêves s'imbriquent, ils sont, on a des rêves à l'intérieur des rêves, on ne sait jamais très précisément où on en est dans cette cascade de rêves. Pas très nombreuses. Il n'y a pas plus de 4 ou 5 rêves d'ailleurs qui constituent le corps du livre, mais jamais on ne revient au jour, jamais on ne revient à ce qu'on pourrait associer au réel, qui est le jour justement.
Ce serait ça alors, c'est-à-dire que c'est le réel qui ne revient pas ou c'est quelque chose
alors,
qui s'éclaire.
Alors en même temps que le réel ne revient pas, je pense que c'est extrêmement réaliste comme livre. Enfin, toutes les scènes sont très réalistes. On n'est pas dans une sorte de vague vaporeux des rêves avec des fantômes ou des créatures vagues brumeuses. On est dans le dur toujours d'un bout à l'autre et cette peinture réaliste, toujours, même si on est à l'intérieur de rêves et avec des événements très étranges qui se produisent et qui bouleversent ses enfants, cette peinture aide à faire exister les enfants dans leur monde qui est un monde de cauchemars et de camps.
On va écouter un extrait de votre texte, du texte de Manuela Dreger, Arrêt sur enfance. On est au tout début du roman.
L'aube était proche. Il s'en fallait de peu. Mais la nuit était encore immobile et brûlante. Tout le monde dormait, ou presque, en l'absence des premières lueurs du matin. Or, c'était Magda qui était en charge de l'écoulement du temps. Elle était responsable de ça depuis plusieurs semaines. Et comme elle venait de mourir, la lumière n'évoluait pas. L'ombre et l'opacité violente persistaient dans le dortoir. La chaleur était écrasante. J'étais réveillée, mais je ne bougeais pas. Je n'avais aucune envie d'ouvrir les yeux. Dans chaque bloc, c'est toujours le même problème. Quand la responsable décède, ou s'en va, il faut faire des pieds et des mains pour rétablir le cours normal des choses. Pourtant, le cours normal des choses, ça se résume à l'arrivée du matin, à quand la nuit s'arrête pour faire place au jour. Ça a l'air de ne pas poser de problème, à première vue. Ça a l'air facile. Seulement, ça ne l'est pas. Oh non, pas du tout. Pour que la mécanique bien réglée se remette en marche, il faut se plonger les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Se salir les mains. Et ne pas s'impatienter. Inutile d'imaginer que tout peut se rétablir en deux temps, trois mouvements, comme par un coup de baguette magique. Pendant des jours, ou des semaines, et parfois plus, on patauge, en plein cauchemar. Il faut attendre que quelqu'un soit désigné, ou se porte volontaire pour la charge. Il faut qu'un nouveau responsable succède au précédent. Un garçon, ou une fille. Le plus souvent, c'est une fille. Il faut que quelqu'un ait le courage de prendre la place vide, d'assumer la fonction. Comme en général, personne ne se présente, l'attente se prolonge. On se met à vivre dans de perpétuelles ténèbres. Parfois, quelques lueurs annoncent la proximité du jour, mais elles n'aboutissent à rien. Ça se modifie légèrement à l'horizon, mais ensuite, la nuit revient, totale et sans pitié. Le matin ne prend pas forme. On ne sait trop comment intervenir. Parce qu'intervenir signifierait s'adresser aux démons, aux adultes, ou aux descendants d'humains pour qu'ils fassent le nécessaire, pour qu'ils nomment une remplaçante ou un remplaçant. Et bien sûr, on a très peur d'attirer leur attention sur le bloc et son dysfonctionnement. On a très peur, oh oui. Chacun de nous redoute d'être choisi sans vraiment avoir les capacités pour remplir le rôle. Et sans pouvoir protester. C'est pourquoi la période de vacances est si longue.
C'est une forme de scène d'exposition. On est au début de Arrêt sur enfance, Manuela Dreger, et on nous dit quel est le problème. Voilà, cette aube qui ne vient pas, la personne qui était censée mettre en route le mécanisme par un sacrifice et ce temps qui est d'un seul coup suspendu. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette sorte de société, micro-société des enfants perdus, Antoine Volodine?
Oui, c'est une micro-société qui représente l'ensemble du monde. En dehors de ce dortoir où on trouve tous les personnages du livre, les enfants perdus et quelques adultes immobiles qui n'interviennent pas véritablement, en dehors de cela, il n'y a rien. Il n'y a que une voie vers une sorte d'aventure étrange qui conduit ceux qui sont en charge de la renaissance de la lumière vers le sacrifice sanglant qu'ils doivent exécuter. Et donc
je fais juste un sous-texte. La lumière revienne, parce que vous parlez d'un sacrifice sanglant, mais pour que la lumière revienne, ils doivent tuer une entité qui s'appelle Le Gros, et la personne qui était en charge de ce meurtre-là est morte.
Oui, c'est une la personne, on dit la personne, mais c'est une petite fille.
Ah mais moi je pense que les petites filles sont des personnes.
D'accord.
Je pense que tous les enfants sont des personnes.
Oui, moi aussi. Hein. Donc seule cette petite fille Magda connaît le chemin vers le gros justement. C'est sa fonction dans le monde de toutes les nuits en rêve. Rejoindre l'endroit qui n'est jamais le même où se trouve le gros et de le poignarder pour que, non pas que le sang coule, on n'est pas dans un rite aztèque, hein, mais elle doit poignarder le gros, et qui ne meurt pas d'ailleurs, et qui proteste toujours beaucoup.
Oui, parce qu'il faut le retuer le jour d'après.
Le lendemain, et tout le monde est conscient que c'est un système complètement naze, disent les enfants, ce qui est complètement naze, complètement idiot, mais il doit être accompli, le meurtre rituel doit s'accomplir pour que renaisse le soleil, le jour. Et justement, la jeune Magda vient de mourir et près d'elle, le héros principal qui s'appelle Yaki Tchapaïev et sa compagne Tatiana vont essayer de l'interroger alors qu'elle est déjà décédée pour savoir comment faire pour rejoindre le gros. Et ça va être leur quête. Mmh. Alors bien sûr, dans le livre, on a plusieurs moments qui sont peut-être transmis télépathiquement de Magda à Yaki et Tatiana, et qui racontent les expériences déjà accomplies de recherche du gros et de meurtre, entre guillemets, du gros. Et on a donc ces rêves qui sont racontés et qui sont transmis d'une certaine manière non seulement à Yaki et à Tatiana, mais également au lecteur, à la lectrice. Et pour rejoindre le gros, d'abord il faut quitter le dortoir, il faut quitter le bloc qui est le centre du monde. Hein.
Et ça leur fait très peur, ils sont très effrayés.
Il y a une petite esplanade, tout cela se passe dans des nuits très chaudes, étouffantes, et ils doivent traverser une barrière d'arbres, et dans l'au-delà des arbres, tout est possible, mais ce qui est possible dans cette voie vers le gros, c'est surtout le noir, des abîmes à franchir, des trains dans lesquels il faut, alors qu'on est tout seul, se monter pour chercher le gros. Enfin bon, donc ce sont, après les arbres, c'est un autre noir, d'autres types de ténèbres, et en fin de course, on trouve le gros. Et Yaki et Tatiana vont essayer de reproduire un de ces rêves, et ils vont pas y arriver.
Vous parlez de Yaki, à un moment donné, en effet, il se révèle à nous comme étant le narrateur de l'histoire, un des personnages qui ferait comme avancer l'histoire, et il nous explique que les enfants perdus de cette micro-société qui représente le monde entier, Antoine Volodine, n'ont que faire de leur âge. On leur dit qu'ils ont 11 ans, mais cela depuis très longtemps, il y a quelque chose du temps qui s'est arrêté, ce qui fait dire un petit peu plus tard dans le roman qu'il y a aussi un rapport à la mémoire, et peut-être à des événements traumatiques qui auraient comme figé le temps. En effet, à lire ce livre-là et tous les, on va dire, les motifs qu'il travaille, c'est-à-dire le temps suspendu, l'enfance figée, la lumière qui ne revient pas, on peut la lire comme une forme de fable. Est-ce que ce serait intéressant de le lire comme ça, une fable qui pourrait nous parler du trauma, Antoine Volodine ? Yaki en parle, mais il balaye un petit peu ça de la main.
Alors, deux choses. D'une part, Yaki Tchapaïev, c'est une sorte de double d'un personnage récurrent des 10, 11 premiers petits romans de Manuela Dreger, où le personnage principal s'appelait Bobby Potemkin, et où, dans un monde très froid, très glacé, avec des compagnes qui sont aussi des genres d'enfants perdus. Bobby Potemkin est confronté à l'étrangeté du monde et à la solitude dans une sorte de petit îlot qui est le dernier endroit du réel dont on ne peut sortir que par le rêve qui lui-même devient cauchemar. On était avec Bobby Potemkin dans des héros qui étaient tout à fait que des enfants, des adolescents pouvaient suivre parce que on était dans les contraintes de la littérature jeunesse. Qui était pas mal subverti d'ailleurs, mais on était dans ces contraintes. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas de ce qu'on trouve dans Arrêt sur enfance. Et donc ce petit personnage se retrouve assez proche finalement au niveau psychologique. Il est assez dominé par les caractères féminins qui l'entourent, il a peur. Les caractères féminins qui l'entourent sont plus forts, les filles sont plus fortes, comme toujours chez Manuela Dreger. Il est un peu ballotté par les événements et on doit le pousser vers l'avant. Voilà. Et puis, il y a d'autre part le trauma dont vous parliez.
Et l'idée de la lecture d'une fable.
Oui, enfin, non, c'est pas une fable, c'est un roman où l'onirisme compte énormément, c'est pas une fable parce que il n'y a pas de leçons à en tirer aussi. Hein. On parlait du trauma, donc le trauma est à un moment clé. C'est vers la fin, d'ailleurs. Chucky fait quelque chose d'absolument abominable, avec le sabre d'une espèce de samouraï bizarre qui s'appelle le Venteux, qu'il rencontre. Et c'est tellement abominable qu'il oublie ce qu'il a fait. Et il revient dans le dortoir, il revient seul, sans Tatiana. Et la première chose qu'il fait, qu'il essaie de se faire, c'est de se purifier, de se laver dans des baquets qui sont dans la cour. Et sa main, il ne se souvient pas. Il sait que quelque chose d'horrible s'est déroulé. Il doit se laver, il doit se purifier, et il le fait un peu comme le personnage du père dans La Source de Bergman, qui, après avoir tué les assassins de sa fille, se lave rituellement pour se débarrasser de l'horreur du meurtre.
On va écouter, si vous voulez bien, Antoine Volodine, la voix de Margot, auditrice du Book Club. Elle a lu le livre de Manuela Dreger, Arrêt sur enfance.
Bonjour le Book Club, et bonjour Manuela Dreger, ou Antoine Volodine. J'ai aimé me laisser mener par ces enfants perdus dont je me sentais un peu proche, moi aussi. Ces enfants désespérés mais pourtant pleins de verve et de sensualité, de poésie, avec une pensée collective malgré tout, et cette responsabilité qu'ils vont affronter pour faire renaître un peu de lumière. Cette lecture nous fait, nous aussi, penser un peu en collectif, comme eux, et des questions sourdes en nous tout au long de la lecture, en tout cas en moi. Cette lumière, ce monde à faire renaître, ce jour à faire revenir, je me suis demandé finalement si je lisais une tentative de faire renaître linguistiquement le réel aussi, une tentative d'enfin recommencer à nommer le monde tel qu'il est en train de continuer à évoluer malgré l'actualité. Alors est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est une fable, un règlement de compte qui amènera une renaissance de la littérature? Merci pour votre réponse.
Merci à vous pour cette lecture, Margot, Antoine Volodine. l'idée d'une renaissance, de pouvoir renommer les choses.
Oui, renommer les choses, c'est quelque chose qui est très très présent dans toute la construction des livres post-exotiques, qu'ils soient signés Volodine, Dreger, ou Luz Bassmann, ou même Eli Kronauer. C'est une reconstruction du monde comme les enfants aiment reconstruire le monde pour en faire leur monde, pour se l'approprier. Et dans le livre, à plusieurs moments, le narrateur nomme les arbres qui sont en face de lui, il leur donne des noms imaginaires, et c'est une manière de reconstruire cette barrière qui doit être franchie à partir de rien, parce que les noms sont donnés de façon très arbitraire à partir de souvenirs raconté par un autre personnage important qui pourrait jouer le rôle de sœur aînée, qui est Jessica toute belle et qui a vécu à l'extérieur de ce bloc et qui raconte des histoires pour dire le monde. Elle raconte et c'est elle qui a donné des noms d'arbres, et les enfants perdus ne savent pas exactement à quoi ça correspond. Ils ne peuvent pas faire de différence entre baobab ou cèdre ou sycomore. Et Manuela Dreger est très et aime nommer le monde et reconstituer le monde. Et un de ses livres s'appelle Herbes et Golems. Et dans Herbes et Golems, on trouve de très longues listes d'herbes très poétiques qui sont d'herbes totalement inventées, avec des noms totalement imaginaires. Ce qui n'est pas exactement le cas ici, parce que les circonstances ne sont pas les mêmes.
Il y a une puissance de la description. Vous parlez de nommer les arbres, nommer les choses, peut-être aussi pour recréer des mondes et que ces enfants perdus, se l'approprier. On va écouter un nouvel extrait de Arrêt sur enfance de Manuela Dreger, peut-être pour parler de la création de paysages par l'écriture.
Nous avancions à présent le long de la rive. Nous explorions l'obscurité devant nous afin de ne pas trébucher. Et nous regardions avec soin sur notre droite pour voir si une embarcation ne se dissimulait pas entre deux eaux ou dans les roseaux. La langue de terre herbue sur quoi nous cheminions n'était pas très large. Quelques dizaines de mètres et déjà elle disparaissait dans le noir compact des arbres sur notre gauche. Le ciel était épouvantablement charbonneux et très, très bas. Nous marchions près du bord et bien souvent, le sol cédait sous nos pieds. Nous nous retrouvions enfoncés jusqu'aux genoux dans un lourd mélange d'eau et de vase, tandis qu'autour de nous explosaient de fortes pestilences. Tourbe, méthane, prêles décomposées, ajoncs pourris, et aussi de vieilles odeurs répugnantes, souvenirs de cadavres, souvenirs de batraciens noyés, de serpents, d'humains, de descendants d'humains, ou pire encore. Quand cela arrivait, nous remontions sur la terre ferme avec l'impression d'avoir été pollués jusqu'à la moelle des os. Nous passions de longues minutes à essayer de nous débarrasser de la fétidité qui collait à nos jambes. Sous le faible éclairage venu de nulle part, nous nous frottions mutuellement avec des touffes humides, des plantes rampantes, chevelues, qui ne faisaient que rajouter leur propre suc à nos puanteurs.
Ah. un extrait du texte de Manuel Adreger, Arrêt sur enfance, où on voit quelque chose du monde, Antoine Volodine, on peut se figurer quelque chose, parce qu'on parlait du dortoir, et là il y a comme une sorte, oui, de paysage à queue, on sent presque quelque chose. On ne sait pas tout à fait ce qui est arrivé au monde quand on commence Arrêt sur enfance. La seule chose auquel on a accès, ce serait sa description presque sensorielle.
Oui, si vous voulez. Et d'autre part, j'insiste sur le caractère d'image, caractère cinématographique. Alors là, on est dans du noir et blanc en permanence parce que la lumière est très 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 basse. Hein. Le ciel est à 50 centimètres au-dessus de la tête. La rive le long du marais. Et est une langue de terre très très étroite entre arbres à gauche et eaux putrides à droite, et on n'est pas du tout dans le commencement du monde, on est vraiment dans la fin du monde, et c'est la fin du monde des c'est un monde de cauchemars, mais c'est aussi pour ses enfants, c'est leur monde. Voilà, il n'est pas donné d'explication, bien sûr, sur ce qui est arrivé avant.
Ni
ce qui leur est arrivé à eux, ni finalement qui ils sont exactement. Les seules informations de l'extérieur, de l'avant, sont données par une autre enfant perdue, qui est Jessica Toutbel, dont on a parlé il y a 5 minutes, et qui pose un problème à ses enfants perdus parce que elle est en train de devenir adulte, ce qui est terrible pour eux. Elle change, vers la fin, il ne la croit plus du tout. Yaki éprouve une grande hostilité à la fin du livre à son égard, parce que ça n'est plus une compagne, ça n'est plus une merveilleuse, une petite comme ses compagnes de dortoir. C'est devenu un être intermédiaire déjà entre les adultes, les presque humains, les momies, qui sont le monde ennemi, le monde d'ailleurs très réduit, mais qui n'est pas du tout un monde sympathique aux enfants. Voilà.
Mais alors justement, Antoine Volodine, moi je vais ramener un tout petit peu, vous disiez tout à l'heure que c'était un texte très réaliste, il se trouve que ce texte très réaliste, on le lit aussi dans un réel, et que ce réel est aujourd'hui très travaillé par la parole des enfants, la violence faite au corps des enfants, la violence physique, sexuelle faite au corps des enfants, et il est pour moi très difficile de lire ce texte-là sans penser à ça, sans penser à la manière dont on prend petit à petit, trop lentement, conscience de la maltraitance faite au corps des enfants. Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte d'écho entre le texte de Manuel Adreger et... parce qu'il y a un magnifique passage sur la nécessité de briser le silence et sur la possibilité même de le faire. C'est aussi un passage où il est question d'une amnésie absolument traumatique après des choses violentes, autant de choses qui font terriblement écho à ce qui traverse l'espace public ces dernières années.
Oui, il y a forcément un écho. Manuel Adreger est un auteur qui est extrêmement sensible au monde des enfants depuis ses premiers livres, qui est extrêmement féministe, qui s'est beaucoup épanché sur la maltraitance faite aux femmes, et si elle met en scène des enfants perdus, se retrouve également dans un questionnement sur la maltraitance faite aux enfants. Ça, c'est absolument certain. Donc ces échos sont aussi à lire avec une approche très féministe de la voix de Manuela Dreger.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et tous les lundis à 15h50, on vous retrouve Fanny Taillandier. Bonjour Fanny.
Bonjour Marie.
Vous êtes en résidence dans le Book Club pour plusieurs semaines. Aujourd'hui, gros programme, je lis le titre, Racisme anti-blanc et polar à l'envers, j'ai même eu du mal à le lire. Vous sortez des livres de votre bibliothèque en fonction de l'actu.
Oui, je suis ravie d'être de retour sur France Culture où je vais m'efforcer à nouveau pour faire honneur à ce beau nom, de parler de notre petit hexagone avec des livres dedans. Et ces jours-ci d'ailleurs, les livres donnent lieu à une foire d'empoigne à faire pâlir d'envie Netflix et la CGT à la fois. Les livres font le débat politique, si on peut encore l'appeler ainsi. D'un côté, le livre enquête « Une nuit en France » qui revient sur la bagarre ayant conduit à la mort d'un jeune homme à Crépol dans la Drôme il y a un peu plus d'un an, ravive la guerre des interprétations et déclenche des menaces de mort à l'encontre des journalistes qui l'ont écrit. De l'autre côté, un essai collectif édité aux Presses Univers de France, face à l'obscurantisme woke, flirte avec le complotisme selon Libération, tandis que l'Express en dénonce la censure. Décidément, on croyait que les livres avaient le charme désuet d'objets poussiéreux du temps jadis, mais il semblerait qu'ils continuent à se comporter comme des engins explosifs. Et depuis ce tourbillon de polémiques livresques, une expression est revenue sur le devant de la scène, le racisme anti-blanc. Évoqué d'abord par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, « C'est arrivé à ma fille, donc je n'ai pas de pudeur à vous dire que c'est une réalité », explique-t-elle sur les ondes d'Europe 1. Puis par le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, sur CNews, deux médias qui ont en commun un seul patron, comme chacun sait. De là, rebelote, polémique, invective, accusations mutuelles et réciproques d'angélisme ou de fake newsisme. Ça existe, mais non, mais si. Évidemment, le débat est piégé. À parler de racisme anti-blanc toute la journée, on finirait par oublier que la note émanant du ministère de l'Intérieur, publiée le 14 mars, donne le bilan suivant de l'année 2024. Sur les 9700 enregistrements de victimes de cris et délits à caractère raciste, les personnes étrangères ressortissantes d'un pays d'Afrique sont surreprésentées. Elles forment à elles seules 11% des victimes, alors qu'elles ne représentent que 4% de l'ensemble de la population. D'un point de vue statistique, donc, on dirait bien que le racisme anti-blanc n'est pas le plus courant. Et c'est ce qui me semblait aussi, d'ailleurs, à moi, blanche à qui on n'a jamais demandé quoi que ce soit pour entrer en boîte de nuit, ni refuser une location, ni interroger les papiers dans les transports ou dans la rue, et à qui d'ailleurs personne n'a jamais fait la moindre remarque sur sa couleur. Mais je ne suis pas porte-parole du gouvernement pour généraliser sans pudeur mon expérience personnelle à la France entière.
De toute façon, c'est peut-être un débat qui relève plus des sciences sociales, Fanny.
Mais oui, bien sûr, et les sciences sociales font bien la distinction entre le racisme individuel qui repose sur la violence motivée par une différence ethnique et le racisme systémique ou institutionnel qui fait qu'un groupe va être discriminé par rapport à d'autres. Le délit de faciès étant son nom courant. De ce point de vue, le racisme anti-blanc n'existe pas, puisque les blancs dominent statistiquement l'ensemble des champs sociaux et institutionnels en France. Mais si le débat est houleux, c'est que le racisme, qu'il soit individuel ou institutionnel, agit toujours d'abord au niveau de sa perception. Et certes, c'est ce qui m'amène à vous parler d'un roman de Chester Himes que j'ai trouvé particulièrement original et que j'ai lu récemment.
Chester Himes, qui est un auteur de polar noir américain, bien connu pour sa série mettant en scène les deux flics noirs de Harlem, Ed Cercueil et Fossoyeur Jones. C'est lui que vous avez sorti de votre bibliothèque, Fanny.
Mais oui, et on connaît son style truculent avec des personnages hauts en couleur, un peu rablaisiens. Mais dans ce court roman qui a été traduit par Françoise Clary et Michel Fabre, Une affaire de viol, c'est une toute autre intrigue qui se met en place. Elle est située à Paris, où Chester Himes a habité une quinzaine d'années avec Baldwin, Richard Wright et d'autres artistes pour amis. L'intrigue est simple. Une femme blanche est découverte morte dans une chambre d'hôtel du quartier latin, en compagnie de quatre hommes noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est que Himes délaisse immédiatement la narration du polar. Au lieu de présenter d'abord l'enquête, puis la découverte d'indices et d'éléments remettant en cause des présupposés jusqu'à faire apparaître la vérité, le livre est composé comme à l'envers. Crime, procès, condamnation en forme seulement le premier tiers. Page 30, pour la justice, l'affaire est réglée. Les quatre hommes sont déclarés coupables de meurtre et de viol.
C'est une enquête rondement menée.
Oui, et même un peu trop vite expédiée. Un écrivain, Roger Garrison, ami d'un des condamnés, décide alors de reprendre l'enquête. Il passe en revue les erreurs et aveuglements de la police et des jurés, convaincus que les biais racistes ont joué à plein dans la condamnation des hommes. On pourrait à nouveau croire que ça s'arrête là. La vérité est rétablie, l'erreur judiciaire est découverte. Mais non. Himes ajoute une troisième partie. Le narrateur, jusque-là purement extérieur, vient à son tour corriger l'enquête de Roger Garrison. Lui aussi, dans sa volonté de triompher du racisme, a oublié de prendre en compte ce qui, dans les liens entre les protagonistes, dépassait le racisme. Il n'a pas pris en compte l'amour qui unissait la victime à l'un des hommes, ni la violence qu'elle subissait auprès de son ex-mari, blanc. Il a oublié l'amour, les peurs, ce qu'on n'ose pas se dire, ce qu'on n'ose pas dire à voix haute, toute l'intimité qui conduit au drame. Et si toute cette intimité est traversée par le racisme, des lois et des préjugés, elle ne s'y réduit jamais, de même que l'enquête, comme la contre-enquête, échoue à représenter la complexité de ce qui a eu lieu. On referme le livre en ayant tous les éléments en main, mais sans la possibilité de trancher. Comme si l'un des plus grands auteurs antiracistes faisait résider une partie de la solution dans une métaphore, de la société et peut-être des récits humains eux-mêmes, la rencontre et le coup de foudre d'une femme blanche et d'un homme noir sur le pont d'un bateau nommé Liberté, à destination de la France, voguant vers une histoire magnifique et une fin tragique à la fois.
Merci beaucoup Fanny Taillandier, vous nous rappelez le titre du livre ?
Oui, c'est Une affaire de viol de Chester Himes.
On peut vous réécouter via franceculture.fr, rubrique lecture d'actu. À cette heure-ci, dans le Book Club, Antoine Volodine, on cherche de la musique dans les livres et on propose à nos auditeurs de jouer avec nous. Le principe est simple, ils peuvent être en train de lire n'importe quel ouvrage. Ils repèrent l'évocation d'un air musical, ils font une photo et ils l'envoient ou bien via le mail du Book Club ou bien via le compte Instagram. L'auditeur qui joue avec nous aujourd'hui s'appelle Nine et il est allé chercher un extrait dans un roman de Catherine Dufour qui s'appelle Les Chants de la Lune, publié chez Robert Laffont en 2024. On se quitte avec un extrait. La tempête a commencé à la 20e heure. Trim sur mes genoux, je l'ai regardé depuis l'observatoire supérieur. C'était un risque, mais la ferme est notre navire et les capitaines doivent se tenir à la barre. J'ai ouvert la caisse de survie de Trim à mes pieds. Les plantes étaient effrayées. J'ai réussi à convaincre Trim qu'il fallait descendre les rassurer. Je leur ai mis les gymnopédies de Sati, un peu plus fort que d'habitude. Sati est un excellent contre les aigouasses végétales. Les animaux l'apprécient moins. Trim et moi avancions lentement dans la nuit de la ferme, sous les frondaisons encore dépouillées par l'hiver. Je sentais pulser sous mes pieds le monde inversé, l'espace dense et obscur des racines, des rhizomes, des vers et des mycéliums qui échangeaient des informations alarmées. Elle remontait avec la puissante poussée de la sève jusqu'à 10, 20, 30 mètres au-dessus de Tumus. Trim et moi avons salué le noyé et le flamboyant. Nous avons contourné l'étang et plongé dans l'ombre de la forêt avant de remonter vers le cœur du jardin. Au-delà du ressaut, le chèvrefeuille et le jasmin étaient peureusement enlacés. Nous entendions leurs lianes se froisser doucement les unes contre les autres. Coupant par la pelouse des familles, nous nous sommes enfoncés parmi les lilas. Le cœur de Trim battait de façon désordonnée, l'air vibrait comme une corde trop tendue, tandis que les géménides montaient en puissance. Les gymnopédies égrenaient leurs notes légères sur cette basse infernale. Merci beaucoup Antoine Volodine d'être venu nous parler du texte de Manuela Dreger, Arrêt sur enfance, paru aux éditions de l'Olivier. Il reste donc un livre pour le projet post-exotique.
Un titre.
Au son, c'était Anthony Thomasson, à la réalisation Vivien Demeyer. Vous pouvez réécouter le Book Club via franceculture.fr et poursuivre la conversation via le compte Instagram du Book Club.